Bonjour et bienvenue à ce 27e épisode du podcast de Board Game Québec. Encore une fois, aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain, de l'école du jeu. Donc, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est inspirée des games des derniers temps, les jeux de course, parce qu'on a joué à Rallyman dernièrement. On va aussi faire les nouvelles aussi juste avant ça. Et aussi, on va parler dans les expériences de jeu de Century, la route des épices, et Sylvain va vous parler de Dice Forge. Donc, deux jeux qui sont assez récents et encore un peu chauds dans les nouvelles. Donc, on vous invite à rester jusqu'à la fin pour écouter notre critique et un peu l'appréciation de ces deux jeux-là. Et aussi, on va terminer avec un projet québécois pour cet épisode-là. Donc, on va commencer immédiatement avec les nouvelles. Et les nouvelles, première nouvelle, en fait, il y a eu les Dice Tower Awards, il y a eu les nominations, ben pas les nominations, les prix qui ont été nommés. J'avais fait dans peut-être là, quelques épisodes là, les nommés, et là, on a les gagnants. Donc, on va passer assez rapidement, puis on va commenter un peu. Donc, le plus gros prix, est-ce que je commence par celui-là? Donc, je pense que je vais le garder pour la fin. Le Board Game of the Year, on va y revenir tantôt. Le Best Artwork Sight.
Quelle surprise!
Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est certain que, écoute, l'artwork dans ce jeu-là est vraiment magnifique. En fait, ils ont bâti le jeu après, ben avoir, oui. Après l'artwork, fait que c'est comme une suivi logique. Donc, non, il y avait des bons nominés, mais Sight était décidément vraiment l'avant de.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est fou ce jeu-là. Le design, juste le plateau de jeu avec. Il y a tellement de petits détails que tu peux aller chercher aussi en jouant. Aussi, les cartes d'Encounter, c'est fou. Tu sens vraiment...
J'aime beaucoup les cartes d'Encounter. Chaque fois qu'on les regarde, en fait, avant même de lire les options, je décris aux gens à peu près la carte. Okay. J'image c'est quoi. Mm-hmm. Puis des fois, il y en a souvent, c'est vraiment assez explicatif. En regardant l'image, là, c'est vraiment génial. Même mais bon, il le mérite.
Ouais. Puis même dans les règles, ils disent « passez-la à tout le monde pour qu'ils se mettent dans l'ambiance du jeu. » J'avoue que je le fais pas, là. Mais souvent, je joue quand même... Peut-être deux, trois parties en multi, plus en solo quand même, ce jeu-là, mais toujours très intéressant. C'est pas très surprenant qu'il remporte ce prix-là. Ensuite, on avait les Best Board Game Production et qui a gagné Mech vs. Minion.
Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun jeu qui arrive même à la cheville de Mech. Non, en fait, je ne l'ai pas. J'ai fait une revue sur la chaîne YouTube, mais la qualité de production, écoute, c'est du jamais vu. Pour le prix qu'ils vendent ça, ça reste un jeu assez dispendieux, mais... ce serait n'importe qui d'autre qui le ferait, il vaudrait le double, même presque le triple. La qualité de production, là, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est absolument fantastique.
Ouais, j'ai vu un peu l'intérieur, il y a un ami qui peut nous montrer l'intérieur de la boîte, j'ai jamais joué à ce jeu-là, mais je trouvais que c'est débile.
La boîte est un chef-d'œuvre. La manière que tout rentre, ça fait en sorte que quand tu l'ouvres, c'est comme un univers qui s'ouvre à toi, c'est vraiment un... C'est une boîte de Pandore que tu rouvres, sérieusement, là, c'est vraiment... écoute, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le Production of the Year, certain.
OK. Ensuite, Best Cooperative Game of the Year, donc le meilleur jeu coopératif de l'année, Mansion of Madness, deuxième édition. Moi, j'avais la première qui je trouvais pas nécessairement, j'accrochais pas beaucoup, puis à deux joueurs, c'était vraiment pas un bon jeu.
Non, ça, c'est qu'il y a quelqu'un, un maître de jeu, là, un overlord, ou quelqu'un qui dirige la partie.
Le setup est excessivement long.
Mais la deuxième version, moi, en fait, j'ai pas joué à Mansions of Madness, deuxième édition, mais il utilise une application un peu comme Descent le fait. Le jeu Descent, deuxième édition, ça l'a donné, quand j'ai essayé l'application, ça l'a vraiment donné une deuxième vie au jeu. Okay. J'ai vraiment été impressionné, puis c'est ça qui m'a donné le goût de vouloir dire, écoute, Mansions of Madness, il faut décidément que j'y jette un œil, là. Et il paraît que c'est super bon.
Ouais. Puis c'est juste dommage qu'on ne puisse pas utiliser l'application avec la première édition, mais bon,
non, c'est sûr, le marketing, jeu est fait comme ça, c'est sûr.
On s'entend.
Mais non, en tout cas, il faudrait que je l'essaye à un moment donné.
Ouais. Puis ensuite, Best Cooperative. Non, ça je l'ai fait. les meilleures expansions, la meilleure extension de l'année. Seven Wonders Duel, donc l'extension Panthéon, qui c'est vrai, ben moi je l'ai aimé, mais je trouvais pas que c'était essentiel au jeu. Je trouvais que Seven Wonders Duel en tant que tel était un très bon jeu, qui jouait très bien, puis là ça fait juste ajouter une petite twist, mais que Ok, c'est bien, mais je peux jouer quand même sans, puis mais bon, ça a quand même remporté. Est-ce que tu l'as joué, toi?
Non, j'ai pas joué à Seven Wonders okay. Duel.
Même pas.
Non, même non, pas, même okay, pas du okay, tout. Okay.
C'était un des rares.
Ouais, c'est ça, fait que donc c'est assez rare. Je sais que dans les extensions qui étaient en nomination, je sais mm-hmm. qu'il y avait entre autres l'extension de Stockpiles, des ouais. petits jeux comme ça. C'est certain mm-hmm. qu'il n'allait pas gagner, mais ouais. je trouve ça fun de voir un petit clin d'œil à des jeux comme ça qui sont vraiment ouais. des plus petits jeux, mais vraiment géniaux.
Ouais, ouais. C'est vrai que Stockpiles, c'est un excellent jeu, j'adore ce jeu-là. Best Family Game, High School, je pense que c'est un achat récent pour toi, High School.
Oui, justement, j'ai acheté High School pour jouer avec ma fille, mais en vérité, juste ma fille, mais c'est pour moi jouer. En fait, c'est un petit jeu, un peu de pichinotte, de dextérité. Mm-hmm. Après ma barre, je dirais que le jeu est assez simple, mm-hmm. assez normal, mais la production du jeu est vraiment le fun. La manière que mm-hmm. ça s'ouvre, c'est que la boîte de jeu, il y a plusieurs boîtes à l'intérieur, puis mm-hmm. on les place toutes sur la table, puis on les relie avec des petits clips pour faire mm-hmm. en sorte de faire un grand plateau de jeu. Qui sert de justement le plateau de jeu. Ouais. Je trouve ça original. C'est un beau petit jeu familial. Encore là, tu sais, c'est pas le genre de jeu qu'on va sortir avec les Amiga pour les grosses soirées, là, ouais. mais ça reste bien divertissant. Ouais. Ma fille adore le petit jeu.
Mm-hmm. Là, je l'avais essayé au jeu au bout un petit peu. On avait fait une partie plus ou moins officielle, là, juste pour voir comment ça pichelotait, ça là, comment ça bougeait.
Mais il y a manière, hein, c'est impressionnant, il y a manière d'utiliser des vraies techniques. Ouais, si on a une pichette sur la tête, le petit pingouin, il vole dans les airs. Mm-hmm. Fait qu'on peut passer par-dessus les murs. Puis je dirais qu'il y a des gens, j'ai vu sur Internet, qu'il y a des gens qui sont assez impressionnants. Mais sinon, c'est un beau petit jeu, je dirais, un petit jeu d'extérité amusant. Mm-hmm.
Le best game from a new designer.
Ben, il n'y a pas de doute, c'est Terraforming Mars, un excellent jeu distribué par Stronghold mm-hmm. Games, mm-hmm. mais franchement, il mérite tous les éloges du monde parce que ce jeu-là est vraiment génial, ouais. l'extension aussi qui devrait arriver éventuellement.
Ouais, Venus... Ouais.
Ellium?
Ok, j'ai peut-être pas trouvé la bonne information.
Et là, c'est l'Elysium. Okay. C'est ça. Ah ouais, bon, okay. En fait, ça va être des nouveaux plateaux de jeu. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Okay. Ça va changer un peu la partie. Okay. Mais non, Terraforming Mars, je lève mon chapeau.
Ok. Puis, mais ça, puis là, ça vient juste de sortir en français un peu partout au Québec. Là, donc, si c'est un jeu qui vous intéresse, beaucoup de boutiques viennent le recevoir. J'ai vu qu'à l'Imaginaire, ici à Québec, viennent le recevoir aujourd'hui même, au moment où on tourne. Là, on est le jeudi 13 juillet. Puis dans d'autres boutiques aussi, je pense que est-ce que ça va partir vite? J'imagine que oui.
J'imagine la première printout était assez vite en anglais. Mm-hmm. Je dirais que c'est tellement un bon jeu, mais franchement, là, s'il y a mm-hmm. des gens qui hésitent, je sais qu'il y a des gens qui ont raté un peu sur le graphisme. Là. Sérieusement, là, le jeu est vraiment génial. Mm-hmm. C'est vraiment un jeu qui figure très 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 haut dans ma liste. Ouais.
C'est un jeu qui va peut-être être dans les prochains achats, dans le prochain épisode, on va voir. Ensuite, Best Game from a Small Publisher, donc un petit éditeur, c'est Roleplayer qui a remporté, qu'on a joué d'ailleurs récemment ensemble, que tu m'as fait découvrir, que j'ai bien apprécié. J'ai remporté aussi.
Yes, ben oui.
Ouais, très cool le Roleplayer. J'ai bien aimé ce jeu-là, même plus que Sagrada. Comme je t'ai expliqué, je trouvais la thématique très intéressante. Puis plus d'un peu plus de stratégie, je trouvais, que par rapport à Sagrada.
Non, Roleplayer est un bon choix, sérieusement. C'est un petit publisher, puis sérieusement, il mérite sa place. Il y a même l'extension qui est allée sur Kickstarter le mois dernier, je crois.
Ouais.
Ça a très bien élevé, là. Ça a mis parti.
Qui rajoute dans le fond d'attaquer avec ton personnage.
C'est ça, on va faire quelque chose, parce qu'avant on faisait absolument rien.
Ouais, c'est ça. Ce que t'aimais.
Oui, ce que j'aimais.
Le Best Party Game.
Ici, on est deux gars qui sont pas sûrs, mais bon.
Ouais, c'est Captain Sonore. Je pense qu'on en a déjà parlé que bon, l'expérience, on a fait une fois ce jeu-là. Moi, j'avais joué le rôle du second qui, second, tu fais pas grand-chose à part dessiner sur un petit plateau. C'était un peu plate. Ça semble être un jeu qu'on dirait qu'à 4 semble bon, parce que le capitaine, là, j'ai l'impression qu'il peut faire les torts des deux autres puis être très bon aussi.
J'ai été le capitaine, mais non, ben franchement, c'est pas un jeu qui a levé du tout la partie, disons que je suis pas sûr que je vais y jouer, mais bon, écoute, Best Party Game, il mérite quand même sa place, il est assez populaire, fait que...
Ouais. C'est pas les genres de jeux que je joue beaucoup, fait que bon, je peux pas commenter plus que ça. Le Best Reprint, bon, c'est encore Mansion of Madness Second Edition. Best Strategy Game.
Eh bien, c'est sans contre doute le meilleur jeu de stratégie. On parle de Terraforming Mars. Vous voyez, je prends tout le temps ma belle voix pour parler de Terraforming Mars parce que j'en ai que du bien à dire.
Best Theming, le meilleur thème, Captain Sonar.
Ouais.
C'est ça qui est ça. Le meilleur jeu à deux joueurs, et là je suis déçu.
Et malgré tout, Jean-Philippe avait voulu 13 Days était en nomination. Codex était en nomination. Mais non, le gagnant c'est
Star Wars Rebellion. Ça doit être très cool, mais c'est très cher comme jeu. Là.
Mais les gens disent c'est vraiment Star Wars in a box. C'est vraiment ce qu'ils disent. C'est vraiment Star Wars dans une belle petite boîte. On retrouve toute la tension de l'univers, le monde. Mais moi non plus, j'y ai pas joué. Ouais, c'est un jeu qui est un peu gros. Il faudrait que je trouve un joueur dédié avec qui jouer. Fait que si jamais ça tente de te l'acheter, ça me fait plaisir de jouer avec toi.
Ah, peut-être. On sait jamais. Mais je connais. Ben oui, j'ai écouté tous les films de Star Wars pas mal tout. Peut-être à part le dernier qui est sorti. J'ai écouté le premier des nouveaux, là, si je me souviens bien. On voit que je suis pas très connaisseur de Star Wars. Il manque le dernier, je pense à écouter, mais je trouve c'est 125-130$. Peut-être que je vais acheter d'autres jeux.
Pour la prochaine catégorie, si je peux me permettre, c'est le Most Innovative Game, le jeu le plus innovant. Et le gagnant est encore une autre déception, puis cette fois-là, pas nécessairement à cause de notre expérience de jeu. Okay. C'est Captain Sonore qui a gagné. Mais je tiens à spécifier que je trouve ça, puis encore là, je vais donner les éloges qui méritent à Captain Sonore, mais il y a tellement de jeux intéressants dans cette catégorie-là. Il y avait entre autres Mystic Veil, qui se trouve être le card crafting avec les cartes, utiliser les sleeves pour modifier les cartes. Je trouvais que c'était quelque chose d'innovant. Il n'y a pas de jeux qui ont fait ça. Et Millennium Blaze aussi, je n'ai pas joué à Millennium Blaze, mais ce jeu-là, c'est un jeu d'innovation parce que bon, pour faire ça rapide, parce que c'est quand même juste un nominé, mais Millennium Blades, c'est un jeu qui simule des tournois de Magic, si on veut, de Collectible Card Games. Donc, tu joues un joueur qui joue à un jeu. Fait que c'est vraiment le metagame, là, c'est du jamais vu. T'achètes des paquets, tu fais des échanges, tu vends tes cartes que t'as. Le jeu est vraiment là. C'est l'innovation même. Un peu comme 504, 504 avait été précédemment un jeu qui innovait beaucoup, mais qui a comme un peu passé dans le bar. Mais Millennium Blade, moi, je l'aurais donné à ça, mais bon. Que voulez-vous? C'est Captain Sonore qui a gagné.
Ouais. Puis, Millennium Blade, là, c'est le seul jeu que j'ai joué que j'en ai rêvé toute la nuit. Je faisais des combos dans ma tête. Là, j'avais pas. C'était fou, là. Puis, il faut que je rejoue à ce jeu.
Je n'ai jamais joué. Pourtant, le problème, c'est que moi, encore là, je viens d'un univers de collectible card game. J'ai joué à Magic énormément. J'ai fait des tournois. J'étais allé quand même sur la scène. Puis, quand j'ai vu Millennium Blade, j'ai trouvé que ce jeu-là était tellement là, exactement là, ce que je cherchais, sauf que ça prend un autre joueur qui est aussi motivé que toi.
Non, c'est ça.
Franchement, c'est fun, ça. Peut-être un achat. Eh oui, mais sinon, c'est ça. Regarde, c'est le jeu, le Most Innovative Game, ça reste le gagnant, c'est Captain Sonore. Et voilà.
Et finalement, la catégorie que j'ai passée au début, le Best Game of the Year, le meilleur jeu de l'année, Sight.
Roulement de tambour, Sight. Et voilà. Donc, Sight...
Je pense qu'on est deux personnes qui aiment bien Sight. J'adore Sight. Surtout le solo, je trouve, il est vraiment très bien fait. Ouais. En multijoueur aussi, c'est vraiment le fun. Tu peux faire tellement de stratégies possibles. T'es pas obligé. Moi, j'ai fait des games là, que j'ai resté dans mon petit coin. On était cinq joueurs. J'ai resté dans mon petit coin puis j'ai clenché
tout le monde. On a vu des parties comme ça très
juste à produire mes ressources. J'avais mes ressources intéressantes proches. Je fais les actions en bas du bas qui fait le plus d'argent possible. Et l'argent, c'est des points à la fin. Là. Tu te ramasses 20-30 points juste en jouant, et après ça, t'es pas obligé de contrôler plein de territoires, t'es pas obligé de rien faire de plus, puis tu gagnes la partie.
Non, c'est un jeu qui donne le goût d'essayer des nouvelles stratégies. T'es pas obligé de tout le temps suivre la même marche pour essayer de gagner, puis ça, c'est sérieusement, c'est digne d'un bon jeu. Fait que non, il mérite son Board Game of the Year, mais franchement, le Dice Tower Award, je trouve qu'il les mérite pas mal.
Ouais.
Fait que c'était la liste.
Ouais. Et t'avais aussi quelques autres nouvelles, je pense.
Oui, en fait, comme nouvelle, je suis un peu la scène Kickstarter. Founders of Gloomhaven, aujourd'hui même, est sorti. Le jeu fait beaucoup de buzz. C'est du même créateur que Gloomhaven, mais il faut spécifier, ce n'est pas une expansion. Non. C'est un jeu complètement différent. On parle d'un jeu euro, de fabrication de villes, placement de tuiles, des actions d'à peu près 2 heures, qui n'a absolument rien à voir avec Gloomhaven, mais avec le pedigree de l'auteur. Ça donne le goût d'essayer. Ouais.
Le prix est très bon aussi.
Le prix est vraiment incroyable. Le fait qu'il offre le shipping, même à plusieurs endroits, je sais qu'au Canada, c'est gratuit.
Ouais.
Je trouve ça vraiment génial. Puis pour 49$ US, le jeu propose beaucoup plus dans la boîte que beaucoup, beaucoup d'autres projets que j'ai vus. Fait que ça donne le goût. Mon doigt est proche, là.
Ça a glissé, puis c'est fait. Et voilà. Est-ce que je vais me retirer? Je sais pas. Je vais regarder un peu plus, mais je trouvais ça intéressant.
Ouais, Founders of Gloomhaven, mais franchement, là, c'est un des rares Kickstarter que je regarde pas mal là, d'un œil. Je suis la campagne avec beaucoup d'intérêt. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que ça a levé, là, en moins de 30 minutes, là, il était déjà fundé au 200%, puis là, ça continue de monter, les chiffres montent, puis...
C'est ça. Ça va aller vite, c'est sûr. Là, Et juste en terminant pour les nouvelles, je vais faire un petit rappel pour l'événement jeu de société que je vais faire au Hall of Geek dans exactement deux semaines, si vous écoutez le podcast, la première journée qui est publiée. Donc, ça va être le 26 juillet. Non, même la semaine prochaine, en fait, si vous écoutez à la sortie de l'épisode. Donc, le 26 juillet, World of Geek, c'est à la sortie des ponts à Lévis. Donc, vous pouvez aller sur la page de l'événement. Vous pouvez aussi checker, regarder ma collection de jeux et demander de demandes spéciales. Puis aussi une liste de jeux que je vais apporter aussi lors de l'événement. Donc, ça risque d'être très intéressant. Nouveau centre de jeux. Je pense que ça va être très cool.
Ouais, j'ai
vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
Je dirais que c'est pas encore officiel. Il y a des chances que j'y sois. C'est pas sûr encore. Je suis encore en négociation. Mais on va voir. Mais sinon, c'est certain que c'est un endroit que j'ai hâte de visiter. C'est vraiment accessible. Là. C'est vraiment tout de suite en sortant des ponts. Les gens qui sont nerveux en disant « Ah, oh, la Rive-Sud, c'est pas loin du tout. » C'est vraiment juste en sortant des ponts. C'est vraiment facile d'accès. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'endroit.
Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir aussi. Donc, ça fait le tour pour les nouvelles et on va passer au sujet principal. Donc, pour le sujet principal, comme j'ai mentionné, ça va être les jeux de course inspirés par nos dernières parties de Rallyman, jeu qui était très en spécial à l'imaginaire. Ouais. C'est même pas un spécial, je pense qu'il faisait juste la troisième édition était à 20$, donc c'était très intéressant. Et donc, petite description Board Game Geek pour vous mettre en contexte de qu'est-ce qu'un jeu de course si vous connaissez pas ça. Puis j'aime toujours ça présenter.
Explique-nous qu'est-ce qu'une course.
Description officielle. Des fois, c'est pas toujours clair. Donc, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont être impliqués dans une course dans lequel il va y avoir des objectifs à atteindre, des fois un checkpoint, donc une fin, un certain marqueur de fin de course. Les joueurs, des fois, on va avoir des changements de vitesse, on va avoir du contrôle un peu, on va tenter d'éviter des obstacles dans ce type de jeu-là. C'est pas des jeux où on va aller dans le style Dominion où c'est le premier à avoir le plus ramassé le plus de cartes puis faire des points. C'est pas ce style de jeu-là. Donc c'est ça, c'est un jeu aussi qui va impliquer donc c'est ça, éviter des obstacles, etc. C'est très souvent des jeux qui vont être multijoueurs, plus un peu plus.
Mais ça crée quand l'attention même... dans une course d'habitude, ça prend d'autres participants course, pour c'est créer l'attention.
Quoique, Rallyman offre des possibilités de... Tu sais, du rallye, c'est juste un temps, en fait. Fait que, puis, tu sais, des courses de rallye, c'est toujours un véhicule à la fois, puis on compte le temps à la fin de la partie. C'est pas le premier qui franchit la ligne d'arrivée, c'est vraiment un type de course qui est un peu différent. Donc, ça se porte bien, je trouve, en jeu de société, puis ça se porte bien en solo aussi. Qu'on peut faire justement, Sylvain va vous parler un peu plus tard dans l'épisode, de quelque chose d'intéressant qu'on pourrait faire avec Rallyman.
Oui, c'est un des rares jeux de course qu'on peut jouer solo parce qu'on peut comparer les temps. Ça joue très bien à plusieurs aussi, il n'y a pas de problème. Mais sinon c'est un jeu assez original pour ça. Parce que sinon, je dirais que la plupart des autres jeux de course que je pense vite comme ça, il y en a très peu qui jouent seul. Souvent, plus il y a de joueurs, plus il y a de tension dans la course. Que c'est la définition même d'une course, là, c'est d'essayer d'être le premier.
Effectivement. Il y a certains jeux qui vont être plus du style Mario Kart, je vais en nommer un peu tantôt.
Ouais, Crazy Kart, qui était comme une version de Mario Kart.
J'ai pas joué. J'ai déjà vu un peu, ça avait l'air vraiment style très Mario Kart.
Moi, c'est un jeu d'Ignacy Tevicek en plus, fait par Pearl Games.
Ok. Puis il y a d'autres jeux qui sont plus puristes, Rallyman, on s'en parle, c'est très... ça respecte vraiment le rallye en tant que tel. Il y a d'autres jeux, des fois ça va être des voitures qu'on va utiliser, des fois des animaux, des fois des cars, des fois des canaux comme dans les Lewis et Clark, des vélos aussi avec le tout nouveau jeu qui vient de sortir,
Flamme rouge. Oui, c'est vrai, on
s'est parlé. Donc des différents, des bateaux aussi, j'ai vu ça un peu sur des jeux peut-être moins connus un peu, là. J'ai un peu regardé la liste des jeux de course qu'il y avait sur Board Game Geek. Il y avait aussi des jeux avec des bateaux, évidemment, là. C'est toujours... ça peut toujours se faire et ça se fait dans la vraie vie aussi. Et on va passer un petit peu juste parler un peu des jeux qu'on a joués, des jeux de course qu'on a joués, pour donner un peu une idée de qu'est-ce qui peut jouer, puis ça peut vous donner peut-être envie de jouer à des jeux de course.
Fait qu'en plus de Rallyman, parce qu'on a déjà parlé de Rallyman, les deux, je pense qu'on a bien apprécié. Les deux, on y a joué, puis justement, on y a joué récemment ensemble, ce qui m'a d'ailleurs donné le goût d'aller chercher le jeu, puis pouvoir commencer à le montrer. Sinon, mes expériences de jeu côté jeu de course. J'ai trouvé ça le fun, parce qu'on a comparé un peu nos jeux, puis c'est assez différent. Je dirais que comme jeu de course, moi, qui m'a marqué, il y a le classique, un jeu que beaucoup de gens vont parler. Moi, j'ai fait le tour, mais c'est Jamaica. Jamaica est un jeu de pirates, un peu amusant, un peu relativement simple. Ça reste une course autour. C'est un bon petit jeu. Je dirais qu'après avoir joué une dizaine de parties, j'avais fait pas mal le tour, mais c'est un jeu qui est très populaire, puis je sais qu'il y a une extension qui va sortir dans pas trop long. Okay. C'est un jeu qui est encore, si on veut, d'actualité, mais sinon, c'est quand même un bon petit jeu.
Ensuite, ben moi, pour, de mon côté, ben il y a Lewis et Clark que j'ai parlé tantôt. Lewis et Clark qui semble pas un jeu de course à la base, mais oui, quand même, le but, c'est de se rendre le plus rapidement possible jusqu'à... je me souviens plus du fort au bout, là, du nom du fort exactement, mais le but, c'est de se rendre jusqu'au bout de la piste, tout simplement. Donc, c'est un peu un jeu de course qu'on pourrait dire. C'est sûr que c'est pas de la course automobile ou whatever, là. Mais oui, c'est quand même une course au final, quand même. C'est pas le but, c'est pas de faire des points, c'est de se rendre à l'autre bout. Il y a aussi Formula D que j'ai déjà joué, très intéressant. Ça, c'est vraiment
ouais, c'est vrai, une course peu
réduite. Mais quand même beaucoup de chance dans ce jeu-là avec les dés. Je pense qu'il y a joué aussi.
Oui, j'ai joué une partie. J'ai trouvé ça intéressant. C'est certain que on roule beaucoup les dés pour savoir pour des déplacements. Fait que souvent, ben, un mauvais jet de dés, ça fait en sorte qu'on se déplacera pas beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Des fois, il y a beaucoup de jeux qu'on pense de course que c'est vraiment roll and move, mais c'est pas nécessairement ça. Mm-hmm. Encore Rallyman, je le reprends. Ouais. Rallyman, lui, c'est plus technique.
Ouais.
On se déplace pas beaucoup de cases à la fois. On y va vraiment côté technique. Mm-hmm. Mais Formule D, ça reste, c'est vraiment le jeu de course typique que les gens se poseraient. Si quelqu'un me demandait, hey, j'aimerais ça voir, j'aime la Formule 1, j'aime la course automobile, montre-moi un jeu, c'est certain que Formule D serait probablement le premier choix que je montrerais. Mm-hmm. C'est comme si c'est peu, c'est un jeu de course.
Mm-hmm. Oh. Puis beaucoup aussi, une communauté, des fois, qui vont faire plus des championnats. J'ai déjà vu du monde qui font ça. Vraiment des championnats avec plusieurs courses. Je sais qu'il y a beaucoup de plateaux disponibles dans Formule D.
Il y a beaucoup d'extensions disponibles, c'est un jeu qui est bien populaire.
Mm-hmm.
Sinon, moi, comme jeu de course, un jeu que je trouve vraiment génial, qui sort un peu du sentier battu, c'est le jeu Steampunk Rally. C'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter, qui vend quand même au magasin. Mm-hmm. C'est fait par Roxley Games, et ça a été illustré par Nina Cossette et David Forêt, qui ont fait entre autres Santorini, puis un paquet d'autres jeux. Ils ont des petits dessins un peu bobbly, un peu cartoon. Moi, j'adore leur artwork. Je trouve ça vraiment rafraîchissant. C'est vraiment génial. Dans Steampunk Rally, on va faire une course, bien entendu, mais on va fabriquer une machine. Donc, c'est comme un peu steampunk. Mm-hmm. On fabrique une machine, puis on va drafter des cartes. Donc, à tour de rôle, on va prendre les cartes, on va en prendre une, et on va passer le paquet un peu à la Seven Wonders.
Okay.
On va faire ça comme ça, et on va fabriquer une machine. Puis, on va utiliser les dés pour pouvoir activer notre machine. Donc, il va y avoir des trous dans les cartes pour nous montrer quand on active un dé, ça fait tel effet ou ça fait tel effet. Fait qu'on va se déplacer, on va essayer de pouvoir ventiler une machine. Puis comme toutes les machines steampunk, ça finit toujours que tu prends un tournant un peu trop rapide, ta machine va exploser, mais tu vas la fabriquer tranquillement, pas vite. Okay. Mais il faut toujours que c'est un espèce de petit puzzle en même temps, parce que là, il faut que les connecteurs, ils fitent. Après ça, il faut que, bon, les valves, il faut que ça rentre. Fait que ça permet, c'est un beau petit jeu, mais franchement, c'est différent. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs, et étant donné que c'est du draft, tous les joueurs jouent de manière simultanée. Les parties durent 45 minutes. De 2 à 8 joueurs, 45 minutes.
Okay.
C'est vraiment génial comme petit jeu. C'est simple à comprendre. Puis ben franchement, moi, Steampunk Rally, je lève mon chapeau parce que c'est un excellent jeu.
OK. J'ai jamais joué. Je l'avais déjà vu passer sur Kickstarter, mais je l'ai jamais joué. J'avais déjà passé proche de supporter, mais j'étais pas allé jusque-là. Mais ça semble très intéressant.
Oh, c'est un beau petit jeu.
Il y a aussi Camelot qui est... Est-ce que c'est un... Ben oui, c'est une course en tant que chameau, mais le but, c'est que tu billes sur... T'sais, fait que...
C'est un jeu gambler.
Ouais, c'est ça. T'as
mais selon la définition, c'est un jeu de course néanmoins.
Ouais, c'est selon Board Game Geek, ça reste un jeu de course. J'ai aussi Rush and Bash, que j'aime bien. Celui-là, c'est un peu style Mario Kart aussi. Tu peux tirer un peu.
Ah, j'ai jamais joué celui-là, je connais
avec Shakira. Tu peux faire un peu le parcours que tu veux avec les tuiles qui sont dans la boîte. C'est vraiment style un peu comme j'ai Mario Kart. Okay. Tu tires des missiles. Quand t'es premier, tu risques de te faire attaquer. T'as des obstacles à éviter, des roches qui vont te faire ralentir, etc. Donc très cool, Rush and Bash, j'avais bien aimé ce jeu-là.
Faudrait que je voie ça un peu, que je me renseigne un peu. Sinon, comme jeu, moi aussi, dans j'aurais ma liste, c'est un peu un jeu que j'adore, même si je suis vraiment mauvais, c'est le jeu Pitch Car, qui c'est un jeu de pichenote qu'on fait une course, une course, c'est vraiment génial. C'est un jeu, c'est un paquet de non-sens, c'est divertissant, c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi, puis j'adore ça. C'est Pitch Car.
C'est vrai que c'est cool.
Ouais.
J'avais aimé ça quand tu l'avais fait jouer aux journées ludiques, là, c'était cool.
Ouais, ça lève, je dirais que même avec des gens qui jouent pas à des jeux, je l'ai amené une soirée maintenant avec des amis, puis je jouais pas en tête, j'ai monté ça, puis comme, hey, des pichinottes, je connais ça, je veux ça chez ma grand-mère. Mais c'est juste que c'est une course automobile en plus. Fait que bon, ben franchement, Pitch Car, là, c'est vraiment génial.
Il y avait aussi Titan Race que j'avais déjà essayé, mais j'avais pas vraiment accroché à ce jeu-là. C'est un peu une espèce de plateau, mais tu peux sortir d'un bord, arriver de l'autre bord. une fois que tu es arrivé à une certaine extrémité, je pense que tu peux revenir de l'autre côté, mais je me souviens pas exactement comment ça jouait, mais j'avais vraiment pas accroché à ce jeu-là, puis des fois c'était comme un peu trop in your face, je te mets out of the game, puis...
Parce que tu m'en parles comme ça, puis j'ai absolument pas le goût de me renseigner sur c'est quoi. Ça. Merci de m'avoir motivé.
Puis je pense que c'est mon game geek qui est pas plus coté que ça, mais bon, s'il y en a qui sont intéressés, Titan Race, vous pouvez aller voir aussi, c'est un autre jeu de course.
Eh oui. Sinon, moi j'ai le jeu Automobile. Ça ouais, porte un nom de jeu de course, cool. C'est très automobile. Mm-hmm. En fait, c'est un jeu, je dirais, de NASCAR, ou qu'on va... Mm-hmm. Sauf que c'est la manière de faire qui est intéressante. Parce que souvent, bon, on pense souvent Formule D, on va brasser un D, on va mm-hmm. avancer. À ça, c'est un bag builder. Ouais. C'est une mécanique qui est bien utilisée. C'est on va mettre des cubes dans un sac, puis on va acheter certains cubes qui vont faire différents effets. Puis au début de notre tour, on va piger dans le sac, puis on va activer ces cubes-là pour faire les effets. Un peu comme Orléans le fait, genre de jeu comme ça. Puis ben franchement, j'ai trouvé ça différent de la manière que c'était apporté. Puis je trouve que Automobile, c'est vraiment un jeu qui est vraiment impressionnant. Il gagne à être connu parce que il y a pas tant de gens que ça qu'ils connaissent. Mm-hmm. Souvent, ils vont voir parce que ça fait partie d'une trilogie. Là, il y avait Trains qui se trouvait être une copie de Dominion mais avec un plateau. T'avais le très mauvais Planes mm-hmm. qui était juste très mauvais.
Okay.
Puis t'avais Automobile qui se trouve être un jeu ouais, qui avait comme passé un peu en dessous du radar. Mais non, ben franchement, là, c'est un jeu qui gagne à être connu. C'est mm-hmm. un bon petit jeu, puis c'est différent.
Mm-hmm. Maintenant, ils vendent la boîte avec les trois dedans.
Oui, ils vendent c'est le Destination Pack ouais. Qui vendent des extensions pour les trois. Okay. La boîte coûte absolument une fortune.
Ouais.
Y a rien qui justifie de vouloir avoir une extension de Planes de toute façon, parce que personne ne okay. va la vouloir.
Okay.
Mais sinon, non, il reste que pour Trains puis Automobile. J'avoue qu'Automobile, les nouvelles pistes me tentent. Je dirais que j'ai regardé, okay. j'ai fait le prix, ah non, c'est un peu trop haut, mais non, moi, j'aimerais ça avoir des différentes courses, là, ça.
OK. Non, j'avais bien aimé, moi, Automobile, j'ai joué une fois, puis je trouvais l'aspect deck builder, bag builder, qui était vraiment très intéressant. Je trouvais bien, très bon jeu
de course. Non, c'est différent, c'est fun, ça fait changement.
Ouais.
Je dirais comme jeu de course notoire aussi, puis ça, je l'ai pas marqué dans mes expériences, mais il y a beaucoup de monde qui parle de Thunder Alley. Okay. J'ai jamais joué, pas vraiment pu vous expliquer quoi que ce soit, mais c'est un jeu de NASCAR. Je sais que quand je faisais des recherches pour les jeux de course, c'est un jeu qui sort souvent comme étant très prisé, là, ça, Formule D, là, les deux sortent souvent, mais comme je dis, bon, je peux pas en parler même plus que ça, je n'ai pas joué, mais c'est du NASCAR, pour les gens qui aiment tourner.
Je regarde un peu plus, ça doit être quand même assez intéressant. Un autre petit jeu, là, je tombe dans le jeu plus familial, le Lièvre et la Tortue. C'est un petit jeu de course, donc selon le conte de Lièvre et la Tortue. Donc une petite course, tout simplement, avec des cartes qu'on va jouer. On a chacun nos personnages. Je pense que j'avais le grand méchant loup de tout par rapport à ces contes-là. Puis c'est une petite course qui joue peut-être en 15 minutes, un petit jeu familial, c'était très cool.
Tu m'en parles, ça me donne un petit coup d'essayer d'organiser avec ma fille, j'ai une fille de 5 ans.
C'est très cool, c'est les jeux qui viennent dans l'espèce de livre.
Ah, la présentation est super belle.
Ouais, non, j'avais bien aimé ce petit jeu-là, 15-20 minutes, puis c'est joué, puis c'est un petit jeu de course bien intéressant,
Puis sinon, comme dernière expérience, moi, comme jeu, en fait, je me trouvais drôle, c'est un ami à moi qui l'a kickstarté, puis quand il m'a mentionné qu'il voulait jouer à ce jeu-là, j'ai quand même un petit facepalm, c'est comme... Ah oh non, je sais dans quoi je m'embarque. Et j'ai joué au jeu Fast and Furious Full Throttle. Bon, de base, c'est un jeu tiré d'une franchise. Mm-hmm. Je suis certain qu'ils ont juste voulu miser sa franchise. Je me disais, écoute, le jeu va être un flop total. Ça va être ridicule. Puis ils vont juste miser sa franchise pour justement avoir de l'argent sur Kickstarter. À ma surprise, quand j'ai joué au jeu, c'était pas mauvais. Ça me faisait penser un peu à Formule D, moins bien ficelé. Il y avait une mécanique des cartes qui était quand même bien pour changer les vitesses. J'ai été surpris. Je serais pas prêt à dire que c'était un excellent jeu, mais c'est pas tout à fait médiocre. Je trouvais ça le fun parce que ça rajoutait quelque chose dans la Formule D. Souvent, on a une piste assez simple, mais dans Rapide et Dangereux, Fast and Furious, il y avait comme des voitures, des fois, qui étaient dans les jambes. Fait que ça simulait un peu la course de rue. J'aimais ça que tu pouvais moduler ton plateau, un peu comme Rallyman. Tu peux choisir les plateaux, les courses que tu vas faire. Ça. Ben là, t'as des routes, puis dans Fast and Furious, tu choisissais un point de départ puis un point d'arrivée, puis tu faisais une course automobile.
Okay.
Là, il y avait des voitures qui étaient dans les jambes, fait que t'essayais de dépasser les voitures pour... Et je dirais que... Sans dire que c'est un bon jeu, parce que c'est pas un jeu qui va se ramasser dans mon top 100 non plus, là. Mais c'est un jeu qui a été surprenant, parce que je m'attendais à vraiment rien du tout de jeu. Là. Okay. C'est pour ça que j'en parle. Des fois, il y a des jeux comme ça qui méritent d'être regardés un tout petit peu.
OK. Et de mon côté, dernier jeu, je sais pas s'il a déjà joué, c'est Gang Rush
Breakout.
Très cool, j'avais aimé ça, moi, ce petit jeu-là, mais bon, je l'achèterai pas, là. Mais je trouvais la thématique intéressante. On essaie de se faufiler au travers des obstacles que les adversaires vont nous mettre. Si on est en avant, on risque de se faire tirer dessus. Il y a la police aussi qui nous tire dessus. On récolte de l'argent quand il y en a d'autres qu'on peut tirer dessus. Puis ils laissent de l'argent à terre. C'est quand même cool. Puis on peut mettre un petit jump aussi pour sauter par-dessus des obstacles. J'avais bien aimé la mécanique de ce jeu-là. Puis on monte nos vitesses avec notre petit cadran. Là. Je trouvais ça cool.
Moi, j'ai joué aux journées ludiques. Le matériel est beau parce que de base, le plateau de jeu, c'est un espèce de petit pont. Mm-hmm. Je dirais, il est super beau. Mm-hmm. On voit que les grandes arches en haut. Fait que c'est assez tape à l'œil. C'est assez impressionnant. Mm-hmm. Le jeu avait été bien. J'avais trouvé ça intéressant. Pas de là à aller l'acheter nécessairement. Ouais, mais vous pouvez également voir la critique de mon collègue Joe à l'école du jeu. Mm-hmm. Il a fait une critique sur le jeu. Fait que si jamais vous voulez vous renseigner un peu là-dessus, ben, vous pouvez aller le voir.
Ouais, exactement. Donc, ça fait pas mal le tour, je pense, des jeux de course. Ça vous donne un peu de parler quand même 10-15 jeux faciles. Qu'est-ce que vous pouvez jouer comme jeu de course si vous êtes amateur de ça? Puis Rallyman, je pense que, je sais pas si on a parlé, je pense qu'on a parlé plein de fois, mais excellent jeu aussi, Rallyman. Je vous invite à aller voir.
Si jamais vous avez des jeux qu'on n'a pas parlé, ben, gênez-vous pas de laisser des commentaires, là, que ce soit sur YouTube, Facebook ou n'importe quel média social. Gênez-vous pas, allez jaser un peu, puis on est toujours bien répondant, puis je vais répondre.
Je vais répondre.
Je vais m'aimer ici un petit peu. Écoute, je commence à être un membre honorifique de Board Game Québec. Là. Je commence à aimer ça, faire cette petite affaire-là. Là.
Non, c'est le fun, c'est une belle dynamique ensemble. On va maintenant passer aux derniers achats. Alors, de mon côté, un achat récent. J'en ai d'autres qui sont en hold sur War Game Bliss, mais j'en parlerai pas. C'est le jeu 1844-1854. Donc, 1844-1854, c'est deux jeux en un. Un jeu 18XX, j'en ai déjà parlé quelques fois dans le podcast. Jeu 18XX qui m'attire beaucoup, ce type de jeu-là, mais je vais essayer de trouver du monde pour y jouer. Là. J'ai rien de faire un déballage, je vais le mettre en ligne. Je sais pas si ça va être en ligne avant ou après la sortie du podcast, mais ça va être dans les alentours. Un jeu qui va durer 5, 6, 7 heures. Jeu très économique, on va faire des chemins de fer. J'ai commencé à lire les règles, ça m'attire encore plus ce type de jeu-là. Donc, 1844-1854, c'est mon dernier achat.
Moi, quand je regarde ces jeux-là, je pense que je vais être honnête. Je pense que je suis intimidé en regardant ces jeux-là parce que je me dis.
Je pense que oui.
Oh my god, c'est beaucoup de temps à investir pour un jeu. Il faut pas s'y méprendre. Mm-hmm. C'est un concept que j'adore. Mm-hmm. J'aime les jeux de train moins économiques, des choses comme ça, mais c'est beaucoup de temps à investir dans un jeu.
Effectivement.
C'est beaucoup trop. Fait que je pense que moi, les jeux 18XX m'intimident un petit peu. Je vais en rester à jouer à Chicago Express, qui se trouve être un petit jeu, une version un peu plus courte de ce concept-là. Mais non, sinon, écoute, au nombre de jeux qu'il y a des 18XX, la série, il y en a tellement. Puis écoute, c'est populaire pour une bonne raison, parce que c'est des excellents jeux. Mm-hmm. Mais encore là, c'est des jeux un peu trop longs pour moi.
Ouais.
De mon côté, pour les achats, je pense qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais Rallyman! Que voulez-vous, hein? C'est un épisode sur les jeux de course. J'ai profité d'un excellent prix à la boutique L'Imaginaire. Mm-hmm. On n'est pas affilié au gros temps. Je ne vais pas faire de la pub nécessairement, mais il est à 20$.
Mm-hmm. Fait que, la troisième édition.
La troisième édition, en fait, c'est ça. Mais 20$, ça revient pas cher pour un bon petit jeu de course comme ça. Encore là, il ne faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas le jeu du siècle. Ça ne va pas détrôner Pandémie et Legacy au numéro 1 de Board Game Geek. Mais. Pour 20$, moi, avec ce qu'il y a dans la boîte, je trouve que j'en ai déjà pour mon argent.
Ben oui.
Sinon, comme achat aussi, parce que ça a l'air que j'ai dépensé plus de pour les jeux que toi, j'ai acheté le jeu que je vous parlais un peu plus tard, Dice Forge.
Ouais.
Bon, mon opinion va venir parce que on va en parler après. Mm-hmm. Mais encore là, vous pouvez voir aussi la critique de mon collègue Joe de l'école du jeu qui a sur le jeu Dice Forge, mais on va en parler un peu plus tard. Et sinon, je veux vous parler. En fait, il est acheté. Mais là, j'attends d'avoir ma copie. J'ai hâte de l'avoir. Je devrais l'avoir. Je pensais l'avoir cette semaine. Mais c'est un petit jeu que je vais me permettre de parler un petit peu qui s'appelle Arena for the Gods. Donc, c'est un jeu de la compagnie Yellow qui est reconnu pour des jeux d'une belle qualité de production, du beau graphisme. Le jeu est pas compliqué. C'est un petit jeu d'aréna. Je dirais que c'est un peu comme le jeu King of Tokyo, mais en version un petit peu plus avancée, mais pas beaucoup. Okay. Fait que ça reste un jeu très léger, très simple, qui utilise des dés pour pouvoir attaquer. Il utilise une belle petite mécanique d'enchères en début de partie. On va parier en fait nos points de vie, on va miser nos points de vie pour pouvoir acheter une arme, une armure, une monture, puis un sort. Puis après ça, ben il va nous rester un certain nombre de points de vie, puis on va utiliser ces cartes-là qu'on a achetées en début de partie pour se battre. Okay. Fait que sinon, ça reste un jeu très très simple. Je vais peut-être en parler en détail dans un prochain podcast, mais j'ai bien hâte d'avoir ma copie. C'est le jeu Arena for the Gods, une petite nouveauté qui nous vient de Yellow.
Ok, c'est pas un jeu que je connais du tout, mais ça m'intrigue quand même un peu ce type de jeu-là. Donc, ça fait le tour pour nos derniers achats et on va passer aux expériences de jeu. Alors, de mon côté, pour les expériences de jeu, je l'ai mentionné en début d'épisode, ça va être Century, la route des épices, qui était d'ailleurs un de mes derniers achats dans le dernier, dernier épisode. En fait, Century, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de Emerson Matsushi, édité par Plan B Game, une compagnie québécoise. D'une durée de 30 à 45 minutes pour 8 ans et plus, complexité 1.78 sur 5. C'est un jeu assez relativement simple. Faut pas se le cacher, là. C'est très simple comme mécanique de jeu. Vous allez le voir aussi quand je vais l'expliquer. Fonctionnement très simple. Le but, ben, c'est avoir le plus de points de victoire possible. Donc, comme beaucoup de jeux le font. Et thématique, ben, on va être un caravanier qui va aller faire des livraisons d'épices. Mais bon, on s'entend que c'est pas... On sent pas nécessairement le thème, là, on va jouer des cartes, etc. Mais bon, si vous êtes intéressé par les thématiques, c'est un peu ça. On va livrer des épices. On va aussi récolter et transformer ben, justement ces ressources-là qui sont des épices dans le but de compléter des commandes. Donc, les commandes qu'on va livrer. Comment ça se joue en fait ce jeu-là? Ben, on a 4 actions possibles à notre tour de jeu. On peut soit jouer une carte de notre main pour réaliser une action qui soit de... en fait, ça va être écrit sur la carte. Il y a des cartes qui vont nous permettre de récolter des épices immédiatement. Il y a d'autres cartes qui vont nous permettre de faire une transformation. Exemple, un cube jaune et un cube rouge contre 3 cubes verts. Je vous donne un exemple très simple. Et les cubes ont un certain nombre d'épices, mais je m'en souviens plus exactement.
Il y a de la cannelle en tout cas.
Je sais qu'il y a de la cannelle. C'est ouais, le brun, ouais, c'est le brun. Le curcuma, je pense.
Ouais,
le
jaune. Bon, ça passera pas pour ça. Mais on les appelle gracieusement jaune, rouge, ouais, vert.
Je pense que le rouge c'est du safran, si je me trompe pas. Et finalement, il y a aussi une option dans les cartes qui est d'améliorer des épices. Donc, il y a un certain niveau d'épices dans ce jeu-là et on peut transformer ces épices-là. Ces épices-là, quand on va justement jouer ces cartes-là, ça va nous permettre d'aller au final, de faire des commandes qui vont être visibles à tous les joueurs. Et il y a toujours la commande qui est le plus au bout de la file, qui va récolter un or, s'il y en a encore de disponibles. Et un or, c'est 3 points à la fin, donc c'est un petit bonus pour la carte qu'on prend. Il y a aussi des cartes d'argent pour la deuxième, des tuiles, des pièces d'argent en fait, qui sont de très bonne qualité.
Des pièces métalliques.
Des pièces métalliques dans ce jeu-là. Et qui va nous donner un point à la fin de la partie. Donc, un petit incitatif à aller sur les mêmes objectifs que les autres joueurs. Autre option qu'on va avoir, c'est d'acheter une carte au marché qui, elle, va nous permettre une carte qui va avoir des options dessus. Et on va payer un certain nombre d'épices dépendant de sa position où elle est dans la file de cartes. Et finalement, on peut aussi reprendre ces cartes qu'on a jouées. C'est comme un peu, on va se reposer avant notre prochain tour, ça nous permet de rejouer ces cartes-là par la suite. Donc, c'est un peu le fonctionnement du jeu et la fin du jeu se termine lorsqu'il y a quelqu'un qui a complété 5 commandes. On termine le tour actif, si je ne me trompe pas, et lui qui a le plus de points, ben, on va remporter la partie. Donc, c'est assez simple comme jeu, comme vous voyez, là, 4 actions possibles et ça se termine comme ça. Et le jeu roule très rapidement, donc je vais aller avec mon appréciation. Côté positif, ben, visuellement c'est très beau, les cartes sont super belles, j'ai fait le déballage aussi récemment, je pense que je l'ai mentionné, là, c'est super beau, matériel de très bonne qualité, on a les petites copes aussi pour toutes les récipients pour les épices qui viennent déjà dans le jeu, donc ça c'est vraiment très cool. Les tours de jeu sont rapides, il n'y a aucun temps mort, donc ça va vraiment très rapidement. Ce que j'aime bien aussi dans ce jeu-là, c'est la possibilité de combiner les cartes. Il y a des cartes qui vont permettre, mettons, de transformer des épices en certaines couleurs, puis ensuite, l'autre carte va nous permettre de transformer ces couleurs-là en une autre couleur qui est intéressante, plus forte, comme la cannelle, qui vaut souvent plus de points dans les certains objectifs. Il y a aussi... on va se batailler, comme je disais, on a 5 objectifs sur la table, donc on voit un peu les autres joueurs aussi, qu'est-ce qu'ils ont dans leur caravane. Donc on va tous se batailler pour ces commandes-là et dès qu'il y en a une de fait, on en a une nouvelle, donc ça c'est très intéressant aussi. Durée de jeu, moi, pour moi c'est vraiment parfait, une demi-heure, 45 minutes, il ne faudrait pas que ça soit plus long que ça, si c'est trop long, Des fois, ça vient trop redondant. Donc, je pense que le temps de jeu est très bien aussi. Je trouve que c'est un excellent jeu d'introduction. C'est simple à comprendre puis à expliquer aussi. Ça s'explique en 5 minutes, c'est fait. Je pense qu'on a compris le jeu. Puis les règles sont sur une page, donc ça ne peut pas être très long à expliquer. Côté négatif, j'en ai pas vraiment beaucoup. Je trouve juste que c'est un peu cher pour la profondeur du jeu. Profondeur du jeu dans le sens que c'est pas un gros jeu très intense. Souvent, j'aime ça payer un peu plus cher pour ce type de jeu-là. Mais c'est cher parce que ben, on a une excellente qualité de production. Les petits cups, l'insert, etc. Les cartes qui sont super grosses. Et finalement, il y a aussi, ben, c'est ça que je disais dans mon point négatif, c'est un jeu qui pourrait être en print and play pour 5-10$, puis ça jouerait de la même façon avec des cubes que tu achètes au dollar à mort, etc. Donc, on paye vraiment pour le matériel, mais ça reste que c'est un très bon jeu quand même. Je pense que l'aspect graphique, comme je disais, c'est très intéressant. Donc, le bilan, ben, moi, après 3 parties, je donne un 8 sur 10, qui est un jeu que j'aime bien jouer, puis que je recommanderais. Donc c'est ça pour ma note pour l'instant après 3 parties. Puis ce que j'ai hâte de voir, c'est la trilogie que donc à partir de 2018 il va y avoir un autre ajout, puis je pense que 2019 un autre ajout. Ça va être des standalone
des extensions, ouais, qui peuvent se jouer un peu
seul mais qu'on peut combiner ensemble. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
Moi aussi, donc, j'ai hâte de voir.
Ça termine pas mal pour qu'est-ce que Century pour moi?
Ben moi, en fait, je vais en parler parce que c'est un jeu que j'ai joué quand même relativement beaucoup. Ben, j'ai joué 7-8 parties dernièrement.
Okay.
Puis, personnellement, je trouve que c'est un petit jeu. Là, tu parlais du prix. Moi, je suis content que ce soit un petit jeu avec une belle qualité de production.
Okay.
Le matériel, le jeu vient avec de la monnaie en métal, chose qu'on voit rarement.
Ouais.
Il vient avec des petits bols pour tenir les épices. Je dirais que le jeu est absolument magnifique. Puis, je songe même à payer aussi cher que le jeu pour aller chercher le playmat qu'ils font. Il y a un beau tapis de jeu en néoprène. Le tapis est tellement beau. Le tapis coûte pratiquement le même prix que le jeu. Je trouve ça absolument aberrant de penser aller l'acheter. Bon, je ne l'ai pas encore acheté, là, mais je dirais que c'est un beau visuel. Bon, le tapis, ça ne sert pas grand-chose. Ça sert juste à donner les composantes. Ça. Mais ça donne un autre côté. C'est juste pour dire à quel point que le jeu m'a bien donné une belle vue. Le jeu est agréable à regarder. Il est simple. Malgré les petits cubes, le jeu joue bien. C'est un jeu qui est facile à montrer aussi. C'est un jeu qui est très court, puis on peut le montrer pratiquement à n'importe qui. Le jeu, par sa simplicité, fait en sorte que c'est très rapide de réussir à pouvoir commencer à jouer. Puis ça, ben, c'est un gros plus souvent pour des tables de jeu. Sinon aussi, une autre chose que j'ai à dire, je trouve ça intéressant ce jeu-là parce que, bon, personnellement, moi, bon, avec Terraforming Mars, Race for the Galaxy, j'adore les jeux qui sont des engine builders. Les jeux qu'on construit un moteur de travail. Puis Century, Spice Road, c'est vraiment ça. Parce que les cartes que tu vas acheter, un moment donné, au départ, tu vas essayer d'acheter quelques cartes. Puis à un moment donné, quand tu vas réussir à trouver une synergie, tu vas trouver une synergie entre 3, 4, 5 cartes différentes. Fait que toutes les autres cartes, là, tu t'en serviras plus jamais.
Fou, là.
Tu vas juste jouer ces cartes-là. Exemple, je joue une carte qui me donne 3 jaunes. Après ça, je convertis mes 3 jaunes en vert. Après ça, je convertis mon vert en d'autres choses. Fait que là, j'ai trouvé une mécanique qui va bien. Fait que c'est de trouver ta petite mécanique. Puis un coup, tu trouves ton petit moteur, ton petit engine, ben, tu essaies de le faire rouler pour essayer d'être plus performant. Puis pour aller chercher les cartes. Fait que moi, bon, étant fan d'Engine Builder, ça c'est un mini Engine Builder, c'est parfait pour moi, c'est un petit jeu qui joue rapidement, puis ben franchement, moi aussi là, j'ai donné une bonne note, je pense que j'ai donné une note de 7.5 sur BoardGameGeek, puis mais dans le créneau, pour moi, c'est une excellente note, c'est pas un gros jeu là, tout à fait épique, mais ben franchement, là, moi écoute, je le recommande, c'est une petite nouveauté tendance, puis ben franchement, il est tendance pour une bonne raison, c'est un bon petit jeu.
Puis juste en terminant, j'ai aussi essayé une variante solo non officielle. Mais pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas assez bien ficelée. Là. La variante est plus ou moins bien faite parce que je l'ai joué une fois, j'ai gagné 95-30. Là. Donc, il n'y a pas de challenge vraiment. C'était vraiment une pyramide de cartes et c'était facile de contrôler ce que l'AI allait faire et qu'est-ce qu'elle allait accumuler comme ressources puis permettre d'en éliminer. Donc, je pense qu'il y a de quoi ficeler un peu plus dans cette variante-là. Je pense que la communauté va peut-être y travailler un peu plus aussi. C'est le fun que quelqu'un y ait pensé. Donc, peut-être éventuellement, lorsque ça va être un peu plus ficelé, j'en ferai sûrement une partie solo. Je pense que c'est un jeu qui peut être très intéressant à présenter comme ça, mais je vais attendre quand même de et peut-être y travailler un peu aussi de mon côté, voir qu'est-ce que je préfère pour améliorer un peu cette variante.
Ouais, ça prend un bon challenge parce que si on gagne trop facilement, non, le jeu perd d'intérêt. Puis tu sais, je comprends qu'on aime ça jouer à des jeux puis que le jeu solo, des fois, on y trouve des belles choses, mais ça, il n'y a aucun intérêt à faire dans ce cas-là.
Non, c'était pas très excitant. Donc, je vais essayer d'aller avec Dice Forge.
Pour ma part, justement, le jeu Dice Forge, qui est encore une nouveauté tendance. Écoutez, on est à l'affût des dernières nouveautés, des dernières sorties ici, chez Board Game Québec. Franchement, Dice Forge, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un jeu qui est sorti, cette année, en 2017. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, d'une durée d'environ 40-50 minutes, dépendant de la vitesse à laquelle les joueurs vont jouer. C'est un jeu, 10 ans et plus. C'est édité par la compagnie Libellude. Et c'est un jeu qui a été fait par Régis Bonessé. Donc, c'est un Français. Donc, je salue notre auditoire français qui nous ont sorti l'excellent Dice Forge. Ouais. Vous l'avez déjà probablement depuis plus longtemps que nous, mais bon, nous, on vient de le recevoir. Là. Donc, Dice Forge, qu'est-ce que c'est? Premièrement, le jeu utilise une mécanique assez, pas révolutionnaire, mais assez originale. C'est un des premiers jeux à grande échelle. Là, ça a déjà été vu avant. Là. Mais c'est un jeu où, habituellement, il y a les deck builders, qu'on fabrique justement notre deck. Il y a les back builders. Qu'on fait. Mais là, on fabrique deux dés. Ce qu'on va faire, c'est que on va acheter des faces de dés. Mais avant tout, je vais y aller avec le petit thème, comme la route des épices un peu, je dirais que, il y a un thème quand même. Ouais. Donc, c'est l'arène des dieux. Les dieux sont là pour essayer de forger les meilleures choses. On peut aller faire des exploits, des choses comme ça. Mais franchement, j'ai pas vraiment vu ce thème-là, mais c'est pas une mauvaise chose. Je dirais que, premièrement, en ouvrant la boîte de Dice Forge, j'ai trouvé que la qualité de production est vraiment géniale. Il y a un insert, l'insert en plastique à l'intérieur est vraiment parfait. Parce qu'il retient toutes les composantes de jeu, même le petit marqueur de tour a sa petite place. Tout rentre de manière très fermée. Les faces de dés qu'on achète sont sur une espèce de grand plateau. Et ce plateau-là, on a une petite enveloppe autour qui fait en sorte que ils tombent pas partout. Quand on joue, on place la boîte de jeu au bout du plateau parce que justement, on va mettre cette trame-là sur l'eau. Donc, ça permet d'avoir un beau visuel. Fait que juste en ouvrant la boîte, je dirais que les composantes sont vraiment géniales. Si je parle des dés, juste encore là, je vais parler des composantes. Les dés, au début, ça me faisait un peu peur parce que ils suggèrent que quand on achète une petite face carrée de dés, on l'utilise pour faire un levier pour sortir le dé. Ça a tendance à pouvoir s'élever dans les airs, ça revole, comme on dirait. Je dirais que moi, j'aurais peur aussi de casser les coins. Je dirais que peut-être pour un café ludique ou un pub, c'est peut-être pas l'idéal. J'ai l'impression qu'il y a des pièces qui vont se perdre. moi, personnellement, on utilise une pointe de stylo, quelque chose comme ça, ça réussit à... C'est super, mais on a eu à besoin de trouver un petit outil là, qui servait pour pouvoir faire le levier, pour éviter de les casser, je dirais.
Je sais qu'il y a du monde qui utilise, je pense que c'est des petits leviers dans les blocs Lego.
Oui, les petits leviers, pour les blocs Lego, j'ai vu ça, beaucoup de gens qui en ont parlé.
Ça fonctionne très bien aussi.
En plus, c'est thématique avec Dice Forge. Donc, comment le jeu se joue? Parce que là, je parle du matériel, je parle de qu'est-ce que c'est. Comment ça fonctionne? Le jeu est très simple. Parce que ce qu'on va faire, c'est que, à notre tour, tous les joueurs vont brasser les dés. Donc, exemple, le joueur actif commence, tous les joueurs vont brasser les dés. Ça fait en sorte que tous les joueurs vont recevoir des ressources. Comme ressource, il y a de l'or qui va servir principalement à acheter des faces de dés. Ensuite, il y a les pierres solaires qui vont servir à acheter différentes cartes. Tu as les pierres lunaires qui vont servir également à ça. Et tu as les points de victoire. Donc, quatre ressources bien simples. Puis, chaque face de dés que tu vas acheter va pouvoir te permettre de pouvoir obtenir un certain type de ressources ou en obtenir plusieurs. Donc, à notre tour, quand c'est le joueur actif, tous les joueurs vont lancer. Fait que tous les joueurs vont faire plusieurs ressources. Le joueur numéro 4, quand ça va arriver à son tour, il va avoir déjà brassé les dés 4 fois. Donc, il va avoir obtenu beaucoup de ressources. Après ça, le joueur actif, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux choix. Soit qu'il achète une phase de dés, une ou plusieurs phases de dés, en fait. Donc, il va payer autant d'argent qu'il veut. La seule règle, c'est qu'il n'a pas le droit de prendre deux fois la même phase de dés. Donc, exemple, il va payer un certain montant parce que sur le plateau, c'est bien indiqué les montants qu'il coûte. Fait que il va payer 4$ pour acheter une phase de dés. Après ça, il va acheter les phases de dés qu'il veut. Puis après ça, il va choisir, il y a deux dés. Il va choisir quel dé il va enlever les faces puis il va les placer. Fait que ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est qu'on peut utiliser les ressources qu'on a obtenues, donc les pierres solaires et les pierres lunaires, pour acheter des cartes. Les cartes sont disposées tout autour du plateau. Puis en passant, encore là, le artwork est vraiment magnifique. Ce qui est le fun, c'est que selon l'emplacement de la carte, les cartes sont toujours au même emplacement, l'image de la carte va avec le plateau. Donc quand on la place tout collé, c'est comme si c'était une extension du plateau de jeu. Ça fait en sorte que le visuel est vraiment génial. Donc, le joueur a le choix, il va payer soit des pierres lunaires, des pierres solaires, un certain nombre, pour pouvoir acheter des cartes qui vont avoir différents effets. Certains effets instantanés, d'autres effets qui vont apparaître à chaque début de tour. Ensuite, il va également garder la carte qui va lui donner un certain nombre de points. Donc, on s'entend, si on utilise un peu de ressources, on va obtenir une carte d'un peu de points. Et on peut également acheter la carte qui vaut la plus chère avec 5 pierres lunaires et 5 pierres solaires et acheter une carte qui va donner beaucoup de points, puis souvent des effets très intéressants.
Ouais.
Je dirais que après ça, fait que ça, c'est la base même. On brasse les dés, on fait soit on achète des dés, soit on achète une carte. Après ça, si le joueur accepte veut, il peut payer 2 pierres solaires pour avoir une action supplémentaire. Mais encore là, on peut juste la faire une fois. Ça fait que ça fait pas des tours interminables, ça permet juste de pouvoir sortir un peu ses ressources. Fait que je dirais que c'est très simple parce que c'est comme ça qu'on joue. On achète, passe le joueur, tout le monde brasse les dés.
Ouais.
Fait que je dirais que le jeu a un effet de... c'est le fun, on reçoit toujours des ressources.
Ouais,
on a l'impression de gagner à l'auto à chaque tour. Fait qu'on va brasser, puis à un moment donné, même, on va être rendu au fond de
ouais.
nos... parce qu'on a un petit plateau personnel qui sert à pouvoir garder les ressources. Puis à un moment donné, quand on arrive avec un nombre maximum, on a 12 pièces d'or, ben on peut plus aller plus loin. Mais si on veut, on peut acheter une carte qui nous permet de faire une extension du tableau. Fait que je dirais qu'il y a plein de petites choses comme ça, plein de petites cartes qui font en sorte que c'est agréable parce que ça a un sentiment de feel good. Donc on sent bien parce que on fait toujours des ressources. Fait que ça, c'est un gros plus. Il y a pas beaucoup de cartes négatives envers les autres joueurs. Je dirais que le jeu utilise une petite mécanique de placement d'ouvriers parce que quand on va acheter des cartes, on va placer notre pion. Mais là, les gens vont dire, ah, ben, placement d'ouvrier, ça veut dire que si le joueur est là, on peut pas y aller. Non, au contraire. Si tu y vas, puis tu déplaces, donc tu bumpes un joueur, tu déplaces un pion, le joueur qui se fait déplacer va brasser les dés, puis va recevoir les ressources. Fait que, il y a comme pas de point négatif à ça. Je l'ai essayé avec une soirée avec un couple d'amis. C'est vraiment un jeu qui a levé, c'est super simple, puis on a l'impression à chaque tour qu'on joue, puis on gagne des ressources.
Ouais, c'est ça.
Fait que je dirais que c'est le fun dans ce temps-là. Même ma femme, qui joue un peu moins que moi, je dirais, elle a vraiment aimé ce jeu-là, parce que, ben justement, on a un sentiment qu'on se sent bien, on brasse les dés, on fait des ressources, puis on va essayer aussi de monter nos dés, là, tu sais. Au début, on a des dés qui donnent une pièce d'or par dé, mais à un moment donné, on a 4 pièces d'or, on a des multiplicateurs, des effets spéciaux. Fait que je dirais que, dans sa simplicité, parce qu'encore là, c'est un jeu qui est relativement simple. Ça dure à peu près 45 minutes, comme je disais. Fait qu'il faut pas s'attendre à un gros jeu compliqué. À la fin de la partie, parce que la partie dure 9 rondes dans le cas d'une partie à 2 ou 4 joueurs, ou 10 rondes si on joue à 3, les parties vont très très rapidement. Parce qu'on va se rendre compte, à un moment donné, rendu aux 3 quarts de la partie, j'avertis les gens, j'ai dit, hey, là, on est au tour 7, là. Il reste juste 3 tours. Et au début, on achète plein de phases de dés, puis on est content, mais à un moment donné, nos dés, ben, ils sont complets. Même si le jeu continuerait plus longtemps, t'as acheté, t'as fait tes dés. Fait que t'essaies de tenir tes combines, tu sais. Y a une phase de dés qui donne un x3, fait que là, t'essaies de pogner ton x3 avec de l'or, puis. Mais le jeu a un sentiment on sent bien en jouant à un jeu-là, je trouve que c'est simple, c'est pas agressif comme jeu, c'est une mécanique originale. Ben franchement, au Dice Forge, ça a été un succès à ma table, avec même des joueurs aguerris qui ont bien aimé l'originalité, puis des joueurs un peu moins gros joueurs que nous autres, là. On se le cachera pas, mais avec des couples d'amis, ça a bien marché. Ben franchement, là, Dice Forge a été un succès, puis je suis vraiment été content.
Ouais, moi je l'ai joué aussi avec Joe, justement, de l'école de jeu. Puis vraiment très, je vous avouerai, de départ, c'était pas un jeu qui m'attirait plus que ça, la boîte, etc. J'étais pas attiré plus que ça. Puis j'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Je pense que c'est vrai que c'est fun de lancer tout le temps les dés. En fait, t'as l'impression de toujours jouer au jeu, tout simplement. Donc je pense que c'est ça qui est vraiment le fun dans ce jeu-là. Puis je trouvais la mécanique très intéressante. Puis comme un deck builder, ça sert à rien d'aller acheter des cartes à l'infini à mener. Tu l'as, tes affaires, puis vas-y avec ça.
Tu veux rouler ta mécanique, c'est ça.
Achète des vraiment bonnes cartes que les autres vont te donner des points, puis là, c'est vraiment intéressant. Donc, ouais, j'ai vraiment apprécié aussi Dice Forge. Peut-être un achat aussi futur. Je pense que ça jouerait bien avec ma famille aussi.
Ouais, c'est un beau petit jeu. Si tu joues à Caverna avec tes parents, je pense que Dice Forge, ils vont jouer à ça. Ils vont dire, c'est quoi ça? C'est un jeu pour enfants? Non, ben franchement, ça vaut la peine. Puis je vous recommande, c'est la petite nouveauté du moment, c'est Dice Forge.
Donc, ça termine pour nos expériences de jeu.
En fait, je peux me permettre
une
petite expérience, je n'irai pas en détail, mais tout récemment, j'ai pu jouer à l'extension de Xayah. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Xayah, Legend of the Drift System. C'est un gros jeu fait par un petit designer, Cody Miller, qui a fait ce jeu-là. Et il y a une nouvelle extension qui est arrivée sur le marché. Ben franchement, J'y ai joué avec un de mes amis, c'est vraiment génial comme jeu. Je pense qu'à un moment donné, je vais en parler un peu plus en détail.
Ouais, t'en parles.
Parce que c'est un jeu qui est un type sandbox, qu'on peut faire ce qu'on veut. Mm-hmm. Puis ça fait en sorte qu'on peut être un pirate, on peut être un marchand, on peut faire plein de choses. Puis j'ai joué à l'extension, puis ça a comme donné un deuxième souffle à ce jeu-là. Mais je vais garder ça pour une autre partie. Ouais. Mais je veux au moins en parler que j'ai essayé l'extension de Xayah, c'est et bon. Ça vaut vraiment la peine.
Ouais, tu nous en reparleras, c'est certain. Ça fait quelques fois que tu m'en parles, puis ça m'intrigue quand même de plus en plus ce jeu-là. Surtout quand tu m'as dit que comparé à Merchant and Marauders, puis j'aime bien ce jeu-là.
Ouais, ça s'est fait en plus, j'ai joué hier, fait que là, j'ai pas pris.
Donc, ça termine officiellement pour les expériences de jeu. Et on va passer au projet québécois. Alors, Sylvain, je vais te laisser parler du projet québécois que tu veux faire.
En fait, je dirais que c'est à petite échelle. C'est un petit projet québécois. Mais comme l'épisode se fait sur la course automobile, puis que, je sais pas si vous savez, mais on a parlé d'un jeu qui s'appelle Rallyman, qui est en spécial à 20$ imaginaire. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai vu parce que la communauté de Rallyman, même en France, est vraiment, vraiment gigantesque. Je sais que c'est un jeu qui vient justement de l'autre côté de l'océan, qui est très populaire là-bas. Mm-hmm. Notre auditoire français doit se dire, ouais, non, comment c'est qu'il parle de ça? Ça fait 6 ans, 7 ans qu'on a ça. Mais je dirais que la communauté est très active sur Internet. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des gens qui font une Coupe du Monde. Puis ça, c'est à grande échelle. Mais encore là, moi, j'étais un peu intimidé d'aller sur BGG ou d'aller sur rallyman.fr pour aller faire ça. Fait que, comme projet québécois, je voudrais partir une petite Coupe du Monde de Rallyman. Ça veut dire que, comment ça fonctionne vite, c'est que, bon, le jeu Rallyman, comme on disait, on peut se prêter en solo parce qu'on calcule nos temps. Donc, il va y avoir certaines pistes qu'on va faire nos temps sur différentes étapes. Mais, ça fait en sorte que s'il y a une piste prédéterminée, un circuit déterminé, avec les étapes que tout le monde va faire. Tout le monde peut faire la course, chacun de leur côté, chez soi, ou même avec d'autres gens. Je pourrais m'installer avec 2-3 amis, puis on fait partie de la Coupe du Monde. Excellent, on fait notre piste ensemble, tous ensemble, et on partage notre temps sur Internet. Mais là, les gens vont dire, partager les temps, voyons donc, c'est trop facile de pouvoir tricher. Oui, c'est facile de pouvoir tricher, mais étant donné que le résultat est juste d'être content d'avoir gagné la Coupe du Monde. Je veux dire, il n'y a pas trop d'intérêt à ça. Bon, encore là, peut-être que c'est moi qui est un peu bonasse, mais j'ai confiance aux gens, j'ai envie de faire ça. Mais comme il existe déjà le concept à la grande échelle, moi, je veux le faire à vraiment à plus petite échelle. Écoutez, si on est 10, si on est 20, je veux pas gérer une grosse Coupe du Monde, mais s'il y a quelques personnes qui sont intéressées ou juste qui veulent s'informer comment ça fonctionne, gênez-vous pas d'aller écrire sur les réseaux sociaux ou sur Facebook. Écrivez à Jean-Philippe. Posez-lui des questions. Je vais éventuellement probablement partir ça, peut-être même le mois prochain. Je vais regarder ça un peu comment ça va, ou aussi voir qui est intéressé. Puis écoutez, si j'ai 4 participants, j'aurai 4 participants à ma Coupe du Monde de Rallyman, version un peu plus locale. Mais s'il y a des gens que ça les intéresse de vouloir faire un petit ça, puis encore là, on est loin d'être des experts. Moi, j'ai un total de 3 participants derrière la cravate. Dont une avec Jean-Philippe. J'ai rejoué avec des amis, je leur ai montré. Mais sinon, je pense que, tu sais, ben franchement, je pense que c'est intéressant. Ça rajoute un petit thrill de pouvoir dire, bon, écoute, je vais faire ma course chez nous, je vais noter mes temps, sans savoir les temps des autres joueurs. Bon, comment ça va fonctionner, que les gens vont m'envoyer en privé leur temps. À ce moment-là, moi, maniaque de statistiques comme que je suis, je vais faire un classement, je vais montrer les gens, ils sont où. Après chaque course, ils vont avoir un certain nombre de points. Et à la fin de la saison, les points vont s'accumuler pour déterminer le grand gagnant de la coupe très virtuelle, qui risque d'être probablement une image que je vais vous envoyer d'un trophée, parce que j'irai même pas investir sur un vrai trophée. Non. Mais c'est pour le fun, la chose. Je dirais que ça permet de transformer un jeu solo à joindre plusieurs personnes de la communauté pour essayer de créer un petit engouement, un petit fun. Puis encore là, si vous jouez pas solo, vous pouvez jouer aussi avec des gens. Si vous vous installez, vous êtes à 2-3 de vos amis, écoute, on fait une course par 2 semaines, une course par mois, c'est facile de réunir ces gens-là pour dire, on fait une course, puis on participe, on met nos temps sur Internet, puis on va essayer de pouvoir faire ça. Fait que c'est la Coupe du Monde de Rallyman que j'aimerais partir parce que j'ai bien apprécié le petit jeu.
C'est cool.
C'était mon petit projet, en fait, à très petite échelle. Très petit projet, mais quand même, s'il y a des gens qui veulent participer, vous êtes la bienvenue.
C'est cool, je trouve ça très intéressant. Puis je vais mettre les infos le plus qu'on va avoir là, sur le
site. Il va probablement avoir une page Facebook qui va se faire. On a un groupe Facebook, là, on va faire ça assez simple. Intéressant. Ouais, ça va être facile comme ça, puis ça va venir, éventuellement.
Très cool. Et donc, on va conclure l'épisode sur ça. Donc, je vous remercie encore d'avoir écouté. Je vous invite encore à aller voir l'événement que je vais faire le 26 juillet au Hall of Geek. Donc, toutes les infos se retrouvent sur la page de l'épisode, aussi sur ma page Facebook de Board Game Québec. Vous pouvez retrouver cet événement-là. Et encore merci à toi, Sylvain, d'être venu. Ça a été très fun, très dynamique comme épisode. Et on est réussi à rentrer dans les 1 heure environ.
Hey, ça, je suis impressionné d'habitude, j'ai tendance à l'échapper.
Ça a été très bien. Merci à vous d'avoir écouté.
J'ai bien aimé ça, puis je dirais que j'ai hâte de recommencer l'expérience.
Ouais.
Fait que gênez-vous pas en passant sur les réseaux sociaux si vous voulez commenter, vous avez des questions, des idées sur le format, n'importe quoi. Gênez-vous pas d'aller parler, commenter, faites des likes, allez voir la page de l'école du jeu sur YouTube, allez voir passionboardgames.com, allez faire un tour. Je veux dire, on est tous là, on n'est pas là pour tirer la couverture de notre côté, on est une communauté, puis on veut juste que les gens apprennent à connaître différentes sources. Fait que gênez-vous pas, allez sur passionboardgames.com. Je pense que c'est la bannière où on est là, l'école du jeu. Ouais, Board Game Québec, tout le monde est là. C'est comme la place pour faire le party. Fait que gênez-vous pas de commenter. Puis les réseaux sociaux, vous pouvez pas vous imaginer comment un petit commentaire, un petit like, des fois ça fait du bien, ça remonte le moral, ça dit hey, il y a des gens qui m'écoutent quand je parle, c'est génial. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Fait que gênez-vous pas. Puis j'ai bien apprécié mon expérience. Merci Jean-Philippe de m'avoir reçu. Puis tu es certain que je vais me rassurer en face de toi très bientôt.
Parfait. Okay, on se dit à la prochaine fois. Bye bye.
Salut la gang.